Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du lundi 8 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Des millions de personnes se rassemblent pour admirer une éclipse totale en Amérique. Des millions de personnes. Les autorités rwandaises ont ouvert à Kigali les 100 jours de commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis en 1994.
Le devoir de mémoire, c'est avant tout une exigence. C'est l'exigence de se souvenir. C'est l'exigence de ne pas oublier. C'est l'exigence d'apprendre des erreurs pour tenter d'ouvrir un monde empreint davantage de lumière.
Au Sénégal, la composition du nouveau gouvernement fait débat.
C'est regrettable, on aurait pu avoir beaucoup plus de femmes, mais pour moi, c'est pas un sujet qui devrait nous retarder. Le plus important, c'est qu'on ait des Sénégalais compétents et qui sont capables de nous mener là où nous voulons partir.
Plus de 90 morts dans un naufrage large Mozambique, selon les autorités locales. Au Soudan, 28 morts dans une attaque des paramilitaires sur un village. Et progrès significatif dans les négociations sur une trêve à Gaza, selon un média égyptien. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo, pour l'instant, le journal. Les commémorations officielles du génocide au Rwanda ont débuté hier dimanche 7 avril, jour anniversaire des premières tueries de ce qui deviendra le dernier génocide du 21e siècle, faisant 800 000 morts, majoritairement dans la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus modérés. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
La communauté internationale nous a tous laissé tomber durant le génocide des Tutsis, a déclaré dimanche le président rwandais Paul Kagame à l'occasion du 30e anniversaire des massacres dont l'ombre plane toujours sur ce pays de l'Afrique des Grands Lacs. Le président Paul Kagame avait, plus tôt dans la matinée, allumé une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi. Peu de temps auparavant, aux côtés de dignitaires étrangers, Paul Kagame s'est recueilli devant une gerbe de fleurs en hommage aux victimes des massacres. L'ancien président américain Bill Clinton en poste à la Maison-Blanche durant les massacres, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et le secrétaire d'État français à la mer Hervé Berville, né au Rwanda, ont assisté à la cérémonie. La communauté internationale avait été vivement critiquée pour son inaction avant et durant le génocide. Personne, pas même l'Union africaine, ne saurait se disculper de son inaction face à la chronique d'un génocide annoncé. Ayant le courage de le reconnaître et de l'assumer, a affirmé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. À l'occasion de cet anniversaire, le président français Emmanuel Macron a affirmé dans une vidéo diffusée dimanche que la France assume tout et exactement cela dans les termes que j'ai employés le 27 mai 2021. Le président français, en déplacement à Kigali, avait alors dit être venu reconnaître les responsabilités de la France.
La mission de l'ONU en RDC décrit une situation sécuritaire de plus en plus volatile dans l'est de la RDC où les combats se poursuivent. La rébellion du M23 a atteint la périphérie nord de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, précise la mission onusienne qui ajoute que d'autres éléments armés ont été repérés dans le parc national des Virunga et menacent de couper la route Goma-Sake. Jeudi, les troupes indiennes de l'ONU déployés autour de Sake pour empêcher la progression des rebelles vers Goma ont abandonné leur position contre l'avis de leur hiérarchie. Selon un document interne de la MONUSCO, au moins 3 positions défensives ont été prises par le M23 et l'armée rwandaise après leur abandon par des soldats indiens, indique le même document. Plus de 90 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau au large des côtes du Mozambique. Le bateau était surchargé, inadapté au transport de passagers selon les autorités. John Lyndon.
Le naufrage du ferry s'est produit au large de la côte nord du Mozambique, ont annoncé dimanche les autorités locales. Le bateau de pêche transformé, transportant environ 130 personnes, a connu des difficultés alors qu'il tentait de rejoindre une île de la province de Nampula. De nombreux enfants figurent parmi les victimes, selon le secrétaire d'État de Nampula, Jem Neto. Les sauveteurs ont retrouvé 5 survivants et en recherchaient d'autres. Mais l'état de la mer rend l'opération difficile. Une équipe d'enquêteurs s'efforce de déterminer les causes du désastre du bateau. La plupart des passagers tentaient de fuir le continent en raison de la panique provoquée par la désinformation sur le choléra, a déclaré M. Neto. Le Mozambique a enregistré près de 15 000 cas de choléra et 32 décès depuis le mois d'octobre, selon les données du gouvernement. Nampula est la région la plus touchée, avec un tiers des cas.
Au moins 28 personnes ont été tuées au Soudan lors d'une attaque des forces paramilitaires contre un village au sud de la capitale Khartoum, ont rapporté dimanche deux organisations soudanaises pro-démocratie. L'Ocean Viking de SOS Méditerranée a secouru dimanche au large de la Libye 55 personnes, dont 4 enfants, à bord d'une embarcation en détresse, a indiqué l'ONG marseillaise, précisant que les rescapés sont sains et saufs. La Côte d'Ivoire a bien avancé dans la lutte contre la déforestation, a estimé dimanche le commissaire de l'Union européenne à l'environnement lors d'une visite de plantation de cacao dans ce pays. L'objectif de cette visite est d'assurer une transition douce pour que les produits qui arrivent dans l'Union européenne ne contribuent pas à la déforestation ici en Côte d'Ivoire. Le Parlement européen a adopté en avril 2023 un texte interdisant l'importation de produits issus de terres qui ont été déboisées après le 31 décembre 2020.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La situation à Gaza est plus que catastrophique, selon des agences de l'ONU et des ONG, alors que la guerre entre Israël et le Hamas entrait dimanche dans son 7e mois. Plus de 33 275 personnes ont été tuées dans l'enclave à ce jour, selon le Hamas. Alexandrine Rologne.
Les maisons, écoles, hôpitaux sont en ruine. Les enseignants, médecins, humanitaires sont tués. La famine est imminente, a déclaré sur la plateforme X la chef de l'UNICEF, Catherine Russell, relevant que plus de 13 000 enfants ont été tués, selon les statistiques des services de santé de Gaza dirigés par le Hamas. Le patron du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, avait qualifié samedi de trahison de l'humanité la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu sans le retour des otages. L'armée israélienne a annoncé le retrait de ses troupes du sud de la bande de Gaza, notamment de la ville de Khan Younes, dans le cadre d'un retrait partiel 6 mois après le début de la guerre.
Les négociations pour une trêve dans la bande de Gaza et la libération des otages détenus par le Hamas connaissent des progrès significatifs, a rapporté ce lundi le média égyptien pro-gouvernemental Al-Kahira News. Une source égyptienne haut placée citée par le média a fait état de progrès significatifs en matière de rapprochement des points de vue sur plusieurs points de litige de l'accord en discussion, indique le média. Les délégations du Qatar et du Hamas sont parties du Caire et reviendront dans 2 jours pour finaliser les termes de l'accord, indique par ailleurs Al-Kahira News. Les délégations américaines et israéliennes doivent quitter la capitale égyptienne dans les prochaines heures et des consultations vont se poursuivre au cours des prochaines 48 heures, selon la même source. Des dizaines de millions de personnes du Mexique au Canada, en passant par les États-Unis, vont être témoins ce lundi d'un rare spectacle céleste, une éclipse solaire totale qui ne se reproduira pas dans cette partie du monde avant 2044. Claire Morégibourg.
La Lune sera très proche de la Terre, ce qui entraînera une longue et intense période d'obscurité. Et le Soleil devrait être plus actif, ce qui pourrait donner lieu à des explosions spectaculaires de plasma. L'éclipse atteindra la côte pacifique du Mexique dans la matinée, traversera les États-Unis en diagonale du Texas au Maine, sur une trajectoire nord-est, traversant 15 États, et s'achèvera dans l'est du Canada en fin d'après-midi. La totalité de l'éclipse durera jusqu'à 4 minutes et 28 secondes à certains endroits. La majeure partie du reste du continent verra une éclipse partielle. La dernière fois que l'éclipse totale a traversé les États-Unis, c'était en 2017 et elle avait duré 2 minutes et demie. Les éclipses solaires totales se produisent tous les ans ou tous les 2 ou 3 ans, souvent au milieu de nulle part, comme dans le Pacifique Sud ou l'Antarctique. Il faudra attendre 2044 pour assister à une nouvelle éclipse aux États-Unis, d'un océan à l'autre.
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé ce lundi en Chine, ont annoncé ses services pour une visite officielle visant à resserrer les liens avec Pékin, partenaire diplomatique et économique clé de Moscou. Monsieur Lavrov séjournera jusqu'à mardi dans la capitale où il doit s'entretenir avec son homologue chinois Wang Yi, selon un précédent communiqué du ministère russe. À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Michel Joseph.
La desserte maritime entre Dakar et Zéguinchor, principale ville de Casamance dans le sud, va reprendre mardi après 10 mois d'arrêt liés à des tensions politiques. Cette desserte est un important moyen d'accès vers cette région enclavée. La distance par la route est longue de plus de 400 kilomètres. Le rôle de la ligne maritime dans l'économie de la Casamance, région productrice de produits halieutiques, de fruits et légumes, est également capital. Les fraises du Burkina envahissent les étals des marchés locaux, un or rouge qui s'exporte désormais dans les pays voisins. Nous recevons des commandes à l'étranger, notamment de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Ghana, rapporte un maraîcher spécialiste des fraises. Durant sa période de production, de janvier à avril, la fraise est vendue à 3000 francs CFA le kilo, 4,50 euros, une somme élevée comparée aux autres fruits et légumes. La production de fraises est estimée à 2000 tonnes par an au Burkina, leader incontesté de l'or rouge dans la région. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est félicité vendredi d'un alignement croissant entre l'Union européenne et les États-Unis depuis 3 ans pour réduire leur dépendance aux importations chinoises dans les semi-conducteurs et les technologies vertes. Le commissaire européen au commerce estime qu'il est évident que dans le contexte économique et géopolitique actuel, il est très important que l'UE et les États-Unis collaborent en tant qu'alliés stratégiques et partenaires de confiance pour relever les défis lancés par d'autres pays.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Rick et bonjour à tous.
Football avec les quarts de finale retour des interclubs de la CAF et en Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane passe en demi-finale dans la douleur.
Oui, dans un match à rebondissement, le club marocain a eu chaud avant de battre dans les dernières minutes les Libyens d'Abou Salem par le score de 3-2. En demi-finale, Berkane affrontera le tenant du titre, l'USM Alger, vainqueur 2-0 des Nigériens de Rivers United. L'autre demi se jouera entre les Zamalek du Caire et les Ghanéens de Touloum FC qui ont écarté le stade malien.
En Ligue des Champions, le tenant du titre est bel et bien en demi-finale.
Les Égyptiens d'Al Ahly du Caire se sont imposés 2-0 devant les Tanzaniens de Simba. Ça passe aussi pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui ont sorti l'autre club tanzanien, les Young Africans, mais au tir au but 3-2 à l'issue d'un match à polémique où un but légitime a été refusé au club de Dar es Salaam. Qualification également du TP Mazembe, renversant à Luanda devant le Petro Atletico. Les Corbeaux de Lumbashi, qui retrouvent ainsi les demi-finales 5 ans après, ont infligé au club angolais non seulement sa première défaite, mais aussi son premier but dans la compétition. Score 2-1.
Par contre, Élisée, la SEC d'Abidjan est éliminée.
Tout à fait. Les Mimos, qui n'ont plus atteint le dernier carré de la C1 depuis 2006, ont été éliminés au tir au but 4-3 par l'Espérance de Tunis après le double 0-0 à l'aller comme au retour. Fusserie. Julien Chevalier, l'entraîneur des Jaunes et Noirs, a tout de même félicité ses joueurs.
On est allé au bout de nos possibilités aujourd'hui et ça s'est joué sur une séance de tir au but. Donc c'est le football. On est déçus, bien sûr, parce qu'on n'est pas qualifié. Mais en tout cas, moi, je suis fier de mes joueurs.
En demi-finale donc, Al Ahly croisera le TP Mazembe et les Mamelodi Sundowns seront opposés à l'Espérance de Tunis. Match aller du 19 avril prochain, retour une semaine plus tard.
Football toujours, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables est au Cameroun.
Nommé à la tête de l'équipe nationale depuis quelques jours, Marc Brice est arrivé ce dimanche à Yaoundé pour signer son contrat. Le technicien belge a d'ailleurs livré ses premières impressions à l'aéroport en disant qu'il est très excité d'entraîner les Lions Indomptables, qu'il va mettre les choses en place et qu'il est content du processus de sa sélection. Pour lui, c'était professionnel. Précisons que la Fédération Camerounaise de football et le ministère des Sports sont rentrés dans un conflit ouvert sur ce poste du sélectionneur.
La page des sports signée Élisée Sonia. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les dirigeants qui ont participé dimanche au lancement de la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda estime que le monde devrait apprendre de cette tragédie et prendre des mesures pour empêcher qu'une telle horreur ne se répète. De Kigali, le récit de Jean Damascène Manishim.
Recueillement au site mémorial du génocide à Kigali, où plusieurs dirigeants venus des différents coins du monde se sont joints au président rwandais Paul Kagame pour lancer une semaine de deuil national et une période de 100 jours de commémoration des victimes du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. S'exprimant pour l'occasion, le président rwandais Paul Kagame a prévenu que si rien n'est fait, le monde pourrait encore sombrer dans une tragédie semblable au génocide. La tragédie du Rwanda est une alerte. Le processus de division et d'extrémisme qui conduit au génocide peut se reproduire n'importe où s'il n'est pas contrôlé. Ce sentiment est partagé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui souhaite que la 30e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda rende effective la résolution de ne plus voir le génocide se commettre dans le monde.
Il faut se souvenir pour renouveler le serment. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est aussi un serment de fidélité aux valeurs élevées de travail, d'empathie et de solidarité qui raffermissent les liens d'humanité entre tous les hommes et toutes les femmes du pays.
Pour le président du Conseil européen, l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda rappelle aussi la passivité de la communauté internationale face aux atrocités de masse que le monde continue de vivre malheureusement.
La communauté internationale, immobile, dans une forme de complicité lâche, ferme les yeux. Nous sommes 30 ans plus tard et je sais ce que mon continent, l'Europe, doit au vôtre, le continent africain. Le devoir de mémoire, c'est avant tout une exigence. C'est l'exigence de se souvenir, c'est l'exigence de ne pas oublier, c'est l'exigence d'apprendre des erreurs pour tenter d'ouvrir un monde empreint davantage de lumière.
La commémoration du génocide est souvent accompagnée de témoignages de résilience. C'est le cas des veuves rescapées du génocide qui refusent de céder au désespoir, comme l'indique Esther Moujawayo, membre de cette association.
On a vécu le pire, mais il y a l'espoir. C'est possible d'en sortir, c'est possible d'avoir une bonne vie malgré l'horreur qu'on a vécue.
Le lancement des activités de la 30e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda a connu la participation d'une dizaine de chefs d'État, dont le sud-africain Cyril Ramaphosa et la tanzanienne Samia Suluhu Hassan, les pays engagés militairement aux côtés de la République démocratique du Congo dans la guerre qui l'oppose aux rebelles du M23. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dévoilé vendredi une liste de 30 membres pour le nouveau gouvernement, dont deux généraux à la retraite. Cependant, l'équipe ne compte que 4 femmes, suscitant des critiques. La correspondance de Wahani Johnson Sambou.
Décret numéro 2024-939.
Après 72 heures d'attente, la publication vendredi de la liste du nouveau gouvernement sénégalais a sonné comme une délivrance. Bassirou Diomaye Faye a porté son choix sur un groupe de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Si beaucoup d'entre eux sont inconnus du grand public, cette équipe bénéficie néanmoins d'une présomption positive chez beaucoup de Sénégalais.
Pour moi, c'est un bon gouvernement parce que je trouve que ça amène une certaine rupture par rapport au gouvernement très politique qu'on voit depuis 1960. Là, on a pris des personnes qui ne sont pratiquement apolitiques, on va dire, qui sont spécialistes dans leur domaine. Quand tu regardes leur background, tu sais que ces gens-là, ils s'y connaissent dans les domaines dans lesquels on les a placés comme ministres. Ils maîtrisent ce sujet.
Ouais, ça inspire confiance parce que les nouveaux ministres-là, vraiment, c'est des gens qui sont, comme on dit en anglais, qui sont clean, quoi, vraiment, d'après leur background. Le premier ministre l'a dit, il ne veut pas que quelqu'un qui a la main sale, il veut de nouvelles têtes dans son gouvernement qui vont prendre en charge les préoccupations des Sénégalais.
Mais même si le gouvernement est composé à majorité d'hommes politiques, les profils présentés par le premier ministre Ousmane Sonko collent aux aspirations de rupture annoncées par le président dans ses discours. La liste a tout de même suscité une certaine polémique du fait de la faible représentation des femmes, 4 seulement sur les 30 nommées.
C'est regrettable, on aurait pu avoir beaucoup plus de femmes, mais pour moi ce n'est pas un sujet qui devrait nous retarder, dans la mesure où moi, un gouvernement de 25 femmes et 5 hommes, ou 25 hommes et 5 femmes, pour moi c'est pareil. Le plus important c'est qu'on ait des Sénégalais compétents et qui sont capables de nous mener là où nous voulons partir.
De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko a déjà dégagé ses axes prioritaires qui tournent autour de 5 points essentiels.
Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays.
Après avoir été porté en triomphe par plus de 54% des électeurs, le nouveau régime devra désormais faire avec la pression des Sénégalais. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Gabon, après un début controversé, les travaux du dialogue national démarrent en commission ce lundi. Les consultations lancées par le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema se poursuivront pendant un mois, avec pour objectif de proposer des lois solides et neutres pour le pays. C'est le souhait exprimé par le chef de la transition au pouvoir à Libreville, mais de nombreuses voix s'élèvent dans l'opinion pour dénoncer le caractère exclusif de ces assises. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
Alors que les travaux du dialogue entrent cette semaine dans leur phase technique, le Front d'égalité républicaine de Bonaventure Zigou Mafoumi dénonce l'implication du gouvernement et des membres du comité de transition dans les assises.
Les membres du gouvernement et des différents cadres ministériels appelés à mettre en application les résolutions issues de ces dialogues y participent avec voix délibérative. Comment comprendre que certains leaders des partis politiques soit retenu et pas d'autres.
Le FER, Front d'égalité républicaine, rejoint au combat d'autres formations politiques frustrées par leur mise à l'écart de ce dialogue. Ensemble, ils s'expriment au sein de la plateforme Vision 2025. Elle est coordonnée par Hervé Patrick Opianga.
Du moment où nous avons déjà interpellé l'opinion nationale et internationale, on se réservera donc le droit, en fonction de ce qui se fera, de nous retirer et de dire le pourquoi de notre retrait.
Vision 2025 revendique à son sein une trentaine de partis politiques. Ils sont absents du rendez-vous, comme manque à l'appel l'ONG Jeunesse sans emploi. Erwan conduit le mouvement devant le site du dialogue.
Ce n'est pas un dialogue inclusif, parce que tout simplement, il y a près de 65 à 70% de la population qui est écartée, qui est exclue complètement du dialogue national. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le ministère du Travail ne peut pas vous donner les chiffres exacts de demandeurs d'emploi. Le PNPE, aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, a près de 32 000 demandeurs d'emploi.
En réaction aux critiques sur le format du dialogue, voici la réponse du porte-parole de la concertation, Mgr Jean-Bernard Assekonvé.
Ceux qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir été appelés ici sur le site d'Angondje doivent réaliser que tous les soldats ne vont pas au combat. Ce que les confessions religieuses attendent de tous les Gabonais, c'est que chacun, là où il est, soutienne ce qui se fait ici au dialogue national inclusif. Et ce soutien, c'est par des rappels à l'ordre.
Les modalités de consultation du peuple promis par le général Oligui au moyen d'un appel à contribution lancé en octobre dernier sont également critiquées. Selon le gouvernement, 38 000 propositions de thématiques ont été recueillies. Elles devaient être synthétisées pour servir de base aux travaux du dialogue, mais aucune synthèse n'a été publiée à ce jour. Ismaël Omionze pour VOA Afrique, Libreville.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Tchad, il s'est tenu à N'Djamena au cours du week-end le dialogue régional de la jeunesse sur le lac Tchad en préparation du 10e Forum mondial de l'eau qui se tiendra mai prochain à Bali en Indonésie. Pendant 2 jours, les jeunes représentants de 4 pays riverains du lac Tchad, à savoir le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, ont discuté de diverses thématiques telles que la paix, la sécurité et le développement dans la région du lac Tchad. André Koudmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le bassin du lac Tchad, ce n'est pas seulement l'usage des armes, ce n'est pas seulement le volet militaire seul qui peut permettre de faire développer cette région. Et donc nous pensons que l'aspect paix, développement durable est très important par l'ensemble des pays membres du bassin du lac Tchad.
Hassan Bichara Hassan, président du comité d'organisation du dialogue régional de la jeunesse sur le lac Tchad, selon lui, concernant le changement climatique qui a pour conséquence l'assèchement de ce patrimoine commun, la jeunesse a des solutions à travers des projets innovants à proposer aux décideurs des pays riverains du lac Tchad. Donald Changam du Cameroun et Madame Nassira Soumaïla du Niger parlent des conséquences de l'assèchement du lac Tchad dans les pays membres du bassin du lac Tchad.
Le lac Tchad a perdu son volume à 90% ces 40 dernières années dû au phénomène du réchauffement climatique. Donc, vous voyez, de nombreuses populations qui vivaient des produits issus de ce lac, vraiment 150 000 familles qui sont abandonnées à eux-mêmes et ça crée vraiment de la vulnérabilité au sein de ces familles et ce qui influence également l'économie nationale. Également, les personnes qui bénéficiaient de ces produits issus du lac, quel que ce soit dans les villes voisines également, sont impactées. Donc, on voit que là, c'est toute une chaîne qui est réellement impacté avec ce phénomène qui se fait réellement vivre à l'échelle mondiale et dont les répercussions pèsent sur nous auprès des bas peuples.
L'assèchement du bassin du lac Tchad a beaucoup de conséquences au Niger, notamment la sécheresse et beaucoup d'intempéries auxquelles le Niger fait face, le manque de poissons au niveau des frontières avec le Tchad.
Une cinquantaine de jeunes leaders et des experts de la commission du bassin du lac Tchad ont pris part à la rencontre de N'Djamena. Les participants ont planché sur les enjeux sécuritaires, climatiques et économiques devant aboutir à l'identification de quelques projets innovants et recommandations pour la préservation du lac Tchad. Les conclusions issues de ce dialogue régional de N'Djamena seront soumises au 10e Forum mondial de l'eau en mai prochain à Bali, en Indonésie. Un extrait de recommandations lu par une participante au micro de VOA Afrique.
La sensibilisation des populations du bassin du lac Tchad sur l'importance de l'environnement et de sa protection. Faire le reboisement tout autour du lac Tchad afin de limiter l'érosion et attirer la pluviométrie. Faire une vaste campagne de reboisement pour réduire le réchauffement climatique. Promouvoir les pratiques agricoles durables en instaurant l'agriculture intelligente. Curettage des déchets se trouvant déjà dans le lac Tchad. Créer une technologie d'irrigation autour du lac Tchad pour lutter contre les inondations. Promouvoir le respect des règles établies par le ministère de l'environnement.
La présidente du secrétariat international de l'eau, Antonella Cagnucci, qui est intervenue par vidéoconférence, a fait observer que la jeunesse, c'est le présent et le futur du monde. Et donc ce forum devrait, selon elle, être l'occasion non seulement pour cette jeunesse d'agir et de faire entendre sa voix, mais aussi et surtout d'exiger des adultes qui gouvernent de l'inclure dans la construction de la planète. André Koudmadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Le mot d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à son micro. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Et n'oublie pas, un lundi bien commencé et souvent un lundi bien terminé. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.